Rencontre spirituelle aujourd'hui, il sera question d'un des prêtres les plus d'avant-garde, les plus audacieux du siècle dernier, le père Léon Dehon, un particulier au début qui fonde la congrégation des prêtres du Sacré-Cœur. On pourra dire pourquoi un tel nom du Sacré-Cœur. C'est que vraiment le Sacré-Cœur, quand on y réfléchit bien, c'est une très ancienne dévotion dans l'Église qui date de siècles, de siècles et de siècles. On peut aller jusqu'au Moyen-Âge. Et c'est une dévotion profonde à l'amour que porte Dieu pour toute l'humanité. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Le père Léon Dehon est quand même décédé au XXe siècle, en 1925. Mais il est né le 14 mars 1843. Il est né à La Capelle. La Capelle, c'est un village dans l'Aisne. L'Aisne, mon Dieu, bah, c'est près de la Belgique, c'est aux frontières de la Belgique. Il y a la cathédrale de Laon. L-A-O-N, là, dans l'Aisne. L'Aisne, c'est A-I-S-N-E. Bon, peu importe, il est né dans ce petit village, La Capelle, et il sera donc le fondateur des prêtres du Sacré-Cœur de Saint-Quentin. Saint-Quentin, c'est aussi une ville de l'Aisne, où il sera vicaire, d'ailleurs, Saint-Quentin. C'est une collégiale gothique très belle. Sa famille... Léon Dehon était plutôt à l'aise, possédait un vieux manoir d'ailleurs où il a été élevé, une assez grosse fortune. C'était une famille qui passait pour honnête, charitable, et Léon avait un frère, Henri, plus âgé que lui. Il y avait eu un autre garçon qui est décédé très jeune. Leur mère, qui s'appelait Fanny Vandelay, c'était une femme hors pair, paraît-il. On dit qu'elle était, bon, d'accord comme bien des femmes, douce et pieuse, mais elle avait beaucoup d'énergie et elle a exercé une influence déterminante sur son fils qu'il aimait beaucoup, sa mère. Elle avait fait ses études à Charleville, c'est aussi dans la même région, chez les Dames du Sacré-Cœur. Vous connaissez ça, les Dames du Sacré-Cœur, il y en a ici à Montréal, elles ont 2-3 couvents... Et Charleville, bien, c'est la patrie d'Arthur Rimbaud. Je vous ai déjà fait une émission sur Arthur Rimbaud. Il était de Charleville. Et sa mère, donc, à Léon Dehon, était douée de beaucoup de sens pratique et d'une piété éclairée. Elle avait au cœur un rare courage. Et elle s'est sentie attirée, d'ailleurs, par la spiritualité de cette congrégation enseignante des Dames du Sacré-Cœur, fondée par Sainte Madeleine Sophie Barra. Et elle en a reçu une excellente formation. Monsieur Dehon, le père de Léon, était un très honnête homme. Mais comme bien des jeunes, à l'époque comme aujourd'hui, le collège... au moment de son éducation, quoi, puis la vie aussi, l'avait absolument éloigné de la pratique religieuse. Il n'aimait pas du tout le clergé ni se rendre à l'église. Mais pourtant, je ne sais pas si je devrais vous le dire tout de suite, il va retrouver la foi quand son fils Léon va être ordonné prêtre à Rome à l'âge de 25 ans. Mais on verra ça tout à l'heure, c'est sans doute l'émotion, j'imagine. Mais surtout, je pense que c'est la foi rayonnante de son fils, qui déjà, au moment de son ordination, était un prêtre hors pair. Il avait tout ce qu'il fallait pour être un saint, son fils, puis un vrai saint, vous allez voir. En effet, Léon Dehon avait tout jeune le goût de l'étude et de ce qui touchait au surnaturel. Pour lui, le surnaturel était peut-être plus concret que la vie concrète. Ça lui venait de sa mère. Elle l'avait imperceptiblement orienté vers le Sacré-Cœur. C'est-à-dire, je le répète, vers l'amour incarné de Dieu. C'est pas une dévotionnette, le Sacré-Cœur. Hein? C'est pas une petite chose de rien du tout. C'est une immense, immense dévotion. C'est peut-être la plus belle qui soit dans l'Église en dehors de, du culte proprement dit, de l'Eucharistie, des sacrements, etc. Dans toutes les dévotions, à mon sens, c'est la plus grande. C'est la révélation de l'amour de Dieu. Alors, Madame Dehon prend soin particulièrement au moment de la première communion de son fils à 11 ans. Elle en prend bien soin. Et c'est déjà elle, sa mère, et qui s'occupe de lui. Puis dans ce temps-là, comme le dit si bien François Mauriac, le grand écrivain français, la première communion, un peu comme aujourd'hui à Montréal en tous les cas, ne commence rien et finit tout, dit François Mauriac. Il ajoute, l'enfant est libéré désormais de l'Église et du prêtre. La première communion, ajoute François Mauriac, est une formalité qui perpétue parmi nous la trahison par le baiser. Un peu comme au jardin de Gethsémani quand Judas embrasse Jésus. Et il termine en disant, François Mauriac, combien d'enfants accueillent le Christ? Mais c'est un signal que lui donne, c'est le signe officiel et reconnu de tous qu'ils vont abandonner le Christ. Et c'est vrai, les enfants, on ne les voit plus dans nos églises, dès l'âge de 11-12 ans. C'est triste. Alors malgré un profond sérieux religieux, Léon Dehon garde cependant les défauts de son âge. C'est pas facile quand on est jeune et brillant de ne pas être, j'imagine, orgueilleux, mais parfois même coléreux. Parce qu'il est fier d'être toujours le premier de sa classe. Il est fier aussi de l'influence de son père dans la région. Ils ont un beau manoir, ils sont à l'aise. Il est même fier de jouer le rôle de Cléante dans l'avare de Molière. Il est fier, sans le savoir vraiment, des dons que Dieu lui a donnés et qu'il a reçus. Qu'a-t-on que nous ne l'ayons reçu? Tout vient de Dieu. Mais il ne s'en rend pas compte, il est jeune. Le 1er octobre 1855, à 12 ans, Léon Dehon et son frère Henri entrent au collège d'Asbrook en Flandre française. La vie chez les Flamands est austère. On est en France quand même. Hein? La règle est très sévère. Le lever se fait de bonne heure. Il y a peu de chauffage. Il y a beaucoup de travail. Il y a peu de congés. Il n'y a pas de place pour la paresse. L'élève Léon Dehon est marqué aussi par la population assez aisée de cette région. Il a écrit dans ses mémoires les mœurs de cet admirable pays. On dirait qu'il décrit le Québec de mon enfance. Les mœurs de cet admirable pays, la simplicité de leur vie, la foi qui règne dans les familles, dans les mœurs et les coutumes. Puis c'est la description qu'il fait. Comme au Québec autrefois, et Léon s'attache à ses études. Il s'intéresse à Frédéric Ozanam, dont je vous ai déjà parlé, puis à ses conférences de Saint-Vincent-de-Paul. C'est lui qui a fondé ça, Frédéric Ozanam. Il va être béatifié le 22 août. Un laïc béatifié, enfin un laïc magnifique, merveilleux, extraordinairement intelligent et généreux. Nous l'aurons comme modèle très bientôt, officiellement. Et Léon Dehon est surtout saisi, jusqu'au plus profond de son cœur, par une vie religieuse sincère et intense. Il est déjà engagé intérieurement. La Belgique, toute proche et qu'il connaît bien, c'est à Poperinghe qu'il a reçu le sacrement de confirmation des mains de Mgr Malou, évêque de Bruges. Ça lui demeure très très cher, cette Belgique. Il s'intéresse au voyage. D'ailleurs, il va à Liège, en Belgique. Mais il va beaucoup plus loin. Il se rend adolescent en Bavière, en Autriche, en Prusse. Il va dans les pays nordiques, au Danemark, en Norvège, en Suède. Il aime voyager. Il est jeune. Jeune par toutes les fibres de son cœur d'adolescent. À 16 ans, le 17 août 1859, Léon Dehon achève ses études secondaires déjà. Il est reçu bachelier ès-lettres de la faculté de Douai. Et cet adolescent sort grandi à tout point de vue de son collège. Puis, l'influence de deux bons prêtres lui fait reconnaître l'appel du Christ qu'il a senti déjà au fond de son cœur. Il est confirmé par ces deux bons prêtres qui l'éclairent. Il reçoit là cette grâce fantastique, fantastique de la vocation sacerdotale. Alors il confie à ses parents son désir de devenir prêtre, mais son père, M. Dehon, ne veut rien entendre. Et il s'écrie « Léon fera polytechnique ». C'est le verdict. Son père espère le détourner de cette façon ses projets d'entrée au séminaire. Alors, à Paris, Léon loge chez son frère aîné Henri pour préparer son concours d'admission à l'école polytechnique. Le milieu des potaches, comme on dit à Paris, c'est-à-dire des élèves plus ou moins excités, quoi, c'est normal, à leur âge, ça ne lui convient pas. Il met tout son sérieux dans ses études. Et en plus, il se fait catéchiste des pauvres de sa paroisse. Il a déjà une âme de chrétien convaincu. Il s'engage dans les conférences de Saint-Vincent de Paul, nouvellement fondée. Et Léon Dehon prend donc ses premiers contacts avec ce qu'on appelle l'humanité souffrante, les pauvres. Et puis, à la place de Polytechnique, il choisit donc l'école de droit. Il ne s'est pas expliqué là-dessus, mais on peut le deviner. Son cœur n'y était quand même pas. Mais une bonne formation aux disciplines du droit lui semble plutôt importante pour plus tard quand il sera prêtre. Le projet ne l'a jamais abandonné de devenir prêtre. Et tout en faisant ses deux premières années de droit en une seule, il s'intéresse à la peinture, à la langue anglaise qu'il veut perfectionner. Un voyage de 3 mois en Angleterre lui inspire des pages très élogieuses sur le caractère équilibré, la gravité de conduite et l'esprit religieux des Anglais. Le bon sens anglais aussi, ce bon sens pratique et sage, c'est ce dont j'ai été témoin moi-même en 49. J'étais plein d'admiration pour la population de ce pays qui a bien changé depuis, malheureusement. Mais la misère des villages d'Irlande le bouleverse, il décrit dans ses notes, c'est terrible la pauvreté des Irlandais à l'époque, au 19e siècle. C'est à ce moment-là qu'ils sont venus ici s'établir au Québec et au Canada pour se réfugier. Ils vont célébrer ça dimanche prochain, probablement uniquement en anglais, malheureusement, dans notre ville française. Et alors, le jeune Dehon rédige dans ses notes qu'il a vu des huttes bâties de boue et couvertes de branchages et de gazon. Une seule place, aucun meuble, couchette d'herbe et de paille, et pour nourriture quelques pommes de terre. C'était la pauvreté de ces pauvres Irlandais. Et à la fin de sa troisième année, en 1862, Léon Dehon soutient brillamment sa thèse de licence. Il n'a que 19 ans, imaginez. Et la quatrième année, bien, c'est celle des stages, puis de l'approfondissement du droit français. Mais la thèse de doctorat risque d'être un échec, car devant un jury de 5 membres, Léon Dehon a le courage de s'attaquer aux opinions fort répandues d'un certain M. Duranton, dont le fils est un des examinateurs, alors c'est l'échec. Mais Léon Dehon a du caractère, il s'adresse au recteur de la faculté de droit, il présente sa défense, puis il obtient gain de cause, et un mois plus tard, Maître Dehon est proclamé docteur en droit et nommé avocat à la cour impériale de Paris en 1864. Il n'a que 21 ans et il est docteur en droit. Le chemin est libre, pense-t-il, pour entamer finalement ses études au séminaire et devenir prêtre. Mais son père, recourt à une dernière ruse, il lui offre un voyage en Orient avec son ami Léon Palustre, une future sommité des sciences archéologiques en France. Léon a l'habitude, depuis sa jeunesse, de mettre par écrit ses impressions de voyage. Et les notes manuscrites de ce voyage en Orient couvrent des centaines de pages. On sait ainsi qu'il a parcouru la Suisse, la Dalmatie, la Grèce, l'Égypte, la Nubie et bien entendu la Palestine et Jérusalem. Le retour se fait par Beyrouth, Damas, Éphèse, Constantinople et la Hongrie. Léon est plus résolu que jamais à devenir prêtre. Il doit résister à son père dont tous les rêves s'écroulent. « J'ai été parfois dur pour mes parents », note-t-il. En 1865, Léon est à Rome au séminaire français dirigé par les Pères du Saint-Esprit. Il entame ses études de philosophie et de théologie à la Grégorienne et l'université, qui est l'université des Pères jésuites, évidemment. Le Sacré-Cœur est désormais l'étoile qui lui fixe de loin sa direction. Sa mère le lui a laissé entrevoir et toutes ses énergies spirituelles vont dans ce sens. De multiples notes personnelles l'attestent. Le Sacré-Cœur, dit-il, est principe et objet de notre amour. C'est toute la théologie. Il a un directeur de conscience excellent, le Père Fred, qui va lui être toujours d'un grand secours jusqu'à sa mort en 1875. Je signale ça, que ce Père Fred va être fidèle jusqu'à sa propre mort à ce jeune prêtre extraordinaire. Le 19 décembre 1868... Il a 25 ans, Léon Déon, il est ordonné prêtre en la basilique de Saint-Jean de Latran, et comme vous savez, il a l'immense joie de la conversion de son père. L'année suivante est riche en événements. L'abbé Déon prépare sa licence en droit canonique, mais il tombe gravement malade. Reposé quelques mois à la capelle, il repart pour Rome, où le Concile Vatican I a été convoqué par le pape Pie IX. Le jeune prêtre en sera un des sténographes, d'ailleurs. Mais la guerre franco-allemande de 1870 suspend le concile. Vous êtes au courant de ça. Et après la guerre, bien, Léon achève sa dernière année d'études, puis il obtient un autre doctorat, cette fois-ci en théologie, et un troisième en droit canonique. Trois doctorats. Depuis toujours, la vie religieuse l'attire. Il pense à entrer chez les pères assomptionnistes. Mais il sent que c'est pas sa voie. Il se met provisoirement au service de son diocèse de Saint-Quentin. En 1871, le 8 novembre, l'abbé Déon a 28 ans et nommé septième vicaire, ça en prenait des vicaires, hein, à la collégiale de Saint-Quentin. On avait des paroisses comme ça à Montréal où il y avait 7-8 prêtres, hein, mais c'était comme ça à Saint-Quentin, près de la Belgique. Et il écrit dans ses notes, c'était absolument le contraire de ce que j'avais désiré depuis des années, une vie de recueillement et d'études. Parce que, bien qu'il y ait tant de vicaires que ça, il y avait beaucoup de monde, il y avait beaucoup de travail, il prend immédiatement contact avec sa paroisse, avec sa ville, c'est un contact réaliste qu'il fait. Sa paroisse compte environ 40 000, il y avait 30 000 paroissiens puis 40 000 habitants dans la ville à cette époque-là. Saint-Quentin, c'est un centre important de l'industrie du lin puis du coton. C'est une ville industrielle. Et puis, Saint-Quentin draine plus ou moins 75 000 travailleurs, des hommes, des femmes, des enfants. Et c'est à peine imaginable aujourd'hui quelle pouvait être la situation de l'ouvrier à l'époque. On faisait 14 à 15 heures de travail par jour, parfois jusqu'à 3 ou 4 heures de trajet aller et retour par jour. Puis le repas, puis le reste pour dormir. C'était un esclavage effrayant, hein? Dans la chaleur étouffante de l'usine, mais il y avait là de la promiscuité puis de la débauche. Les directeurs d'usine ne s'en souciaient pas. Les adultes pervertissaient les jeunes et même les tout-petits. Les salaires de famine suffisaient pour ne pas mourir. Il n'y avait pas de caisse de maladie ou d'épargne, ni de pension. Les femmes et les enfants ruinaient leur santé. C'était terrible, les livrogneries faisaient des ravages. Mais cela n'intéressait pas les industriels. Et l'abbé Déon, dans son journal, il note, puis il l'a d'ailleurs crié sans gêner, « Notre société est pourrie ». Alors les chrétiens avaient bien créé des œuvres de secours, des cercles d'ouvriers, des patronages, des hospices, des distributions d'aumônes, mais ça suffisait pas. C'est les socialistes incroyants qui avaient mieux saisi le problème. Car les socialistes, eux, parlaient de droit. Le droit à plus de liberté, le droit au repos hebdomadaire, le droit à la vie de famille, le droit à plus de salaire. Et pour cela, il fallait des lois. Et c'est en ce domaine que le socialisme s'est lancé dans la bataille. Or, et c'est terrible, il n'a pas fait de différence entre capitalisme et christianisme. Ce n'est pas parce que les patrons allaient à la messe que le christianisme ne valait rien. Mais ni les socialistes ni les ouvriers ne faisaient cette distinction. Ainsi, l'Église a perdu la confiance du peuple. Et le pape Léon XIII, heureusement, va dire 20 ans plus tard, il faut aller au peuple. C'est à la lettre ce qu'a fait l'abbé Dehon, dès 1871. Il n'a pas attendu, lui, il a compris, longtemps avant que Léon XIII parle, et après une étude sociale approfondie de la ville et de la région, il se lance à corps perdu dans les œuvres ouvrières, puis il va fonder un patronage, dès 1872, l'un des premiers de France. Il a 30 ans. Les premières réunions se font par petits groupes dans le bureau du vicaire, la ville de Dehon, en attendant l'ouverture de bâtiments appropriés pour tout ça. Ils seront à un moment donné, très vite, l'année suivante même, plus de 200 jeunes à le fréquenter. Un cercle ouvrier fondé en 72, qui compte 140 adhérents en 75. L'abbé Dehon cherche rapidement la collaboration avec le fameux Albert Demain, mais aussi avec René de la Tour du Pin. C'était des spécialistes de l'action sociale. Il faudrait bien que je vous en parle un jour. Mais il faut agir sur les industriels, sur le cœur des gens riches. Transformer le cœur des gens riches, c'est ce qu'il faut. Et l'abbé Dehon trace le rôle par ses sermons, ses discours, ses causeries, ses réunions. Puis aussi par des imprimés, par la presse, il crée un journal. En 1874, une revue des questions sociales et ouvrières. Il se gêne pas pour parler au patron, il dit « Vous n'êtes pas assez chrétien dans votre vie de patron ». Et ses efforts aboutissent à réunir dès 1876 quelques directeurs d'usines. Des directeurs d'usines qui s'engagent à faire des améliorations et même à visiter les taudis. Et l'abbé Dehon participe à des congrès sur les questions sociales à Lyon, à Reims, en Champagne. Et dès son retour, il essaie de contacter et d'intéresser le clergé diocésain qui est plutôt assez inactif et qui est rêveur. Ils sont pris dans leur sacristie, quoi. Il organise lui-même plusieurs congrès diocésains en 75, 76, 78. Il y rencontre le fameux Léon Armel, patron de l'usine du Val des Bois près de Reims. C'est un des meilleurs collaborateurs. C'est un saint, ça, Léon Armel. Il faudrait que je vous en parle un jour. Quel homme, un patron d'usine, qui a mis en pratique dans son usine les directives sociales de l'abbé Dehon. Alors le clergé diocésain, surtout le jeune, se compte bientôt par centaines à ces congrès. Les jeunes prêtres sont enthousiastes. Et avec tous les mouvements d'action sociale de notre époque, on voit bien ça, tous les mouvements d'action sociale aujourd'hui, on risque, nous, de ne pas comprendre ce qu'avait de révolutionnaire l'attitude du vicaire Léon Dehon, fondateur des prêtres du Sacré-Cœur. Une pieuse dame, d'ailleurs, va lui écrire, comme il y en a qui écrivent à Radio Ville-Marie, « Je ne suis pas du tout partisan de la politique religieuse socialiste de M. Dehon. Les prêtres sont là pour prier, pour faire le catéchisme, pour visiter les malades et administrer les sacrements. Ne comptez pas sur ma cotisation aux œuvres de M. Dehon. » Quelle tristesse! Et c'est à cette époque-là, en 1877, que l'abbé Dehon, à 35 ans, fonde la Congrégation des prêtres du Sacré-Cœur. Et nous y reviendrons. Alors nous en étions rendus à la fondation des prêtres du Sacré-Cœur en 1877. Et 15 ans plus tard, en 91, il a 48 ans. Après les années de fondation, c'est très difficile de fonder. Le père Léon se relance dans la lutte sociale. Et le 15 mai de cette année 1891, paraît la fameuse encyclique « Rerum Novarum » du pape Léon XIII. Je dis que c'est une fameuse encyclique, et c'est vrai. La doctrine sociale se répand alors par le père Dehon par tous les moyens, et également par sa revue qui porte ce titre « Le règne du cœur de Jésus », parce qu'il croit à l'amour de Dieu. Il avait fondé cette revue en 1889, 2 ans avant l'encyclique. L'année après l'apparition de l'encyclique, en 92 jusqu'en 94, le père Dehon rédige en collaboration un manuel social chrétien. C'est le premier ouvrage à traiter de cette question, manuel social chrétien. Bon, ce manuel connaît rapidement 5 éditions, c'est un record pour l'époque. Une édition augmentée paraît un peu plus tard. Elle est vendue en France à 12 000 exemplaires. Le manuel est traduit en 6 langues. Imaginez, les mêmes traduits en arabe. Mais c'est qu'il y a des chrétiens arabes, des catholiques de langue arabe. Plus nombreux qu'on pense. Il faut, dit-il, créer des caisses rurales, des caisses de famille, des économas domestiques, des assurances contre les accidents du travail, des caisses de retraite. Est-ce que ça ressemble pas à nos caisses populaires, ça? Il ajoute, le clergé doit chercher ses auxiliaires dans le peuple pour diriger ses œuvres et fonder avec eux un syndicat qui fera tout le reste. Tout ça, c'est écrit il y a plus de 100 ans. Ça nous paraît tout ce qu'il y a de plus normal aujourd'hui, mais il était loin d'en être ainsi du temps du père de Hon. Les évêques et les curés se cabraient devant cet apostolat social. Seuls les jeunes prêtres, je répète, pouvaient comprendre cette époque nouvelle. Et Léon Armel, dont je vous ai parlé tout à l'heure, organise des réunions pour séminaristes, parmi lesquels de futurs évêques, qui seront profondément touchés par tout ça. Puis, il fait ça, Léon Armel, avec d'autres laïcs, comme Georges Goyot. Georges Goyot qui disait du père Léon de Hon, une chose magnifique, « Apôtre social parce que disciple du cœur qui a pitié. » Alors, il faisait donc ça avec Georges Goyot, Marc Sangnier, dont nous a parlé longuement Henri Guillemin à la télévision autrefois, puis l'abbé Tellier de Pongeville aussi, dont je vous parlerai bien un jour, j'ai un livre sur lui. Et les congrès se multiplient, puis le père de Hon est présent à tous. Il encourage vertement les séminaristes, comme en 1901, dans un texte « La justice sociale ». Il dit aux séminaristes, « Ne vous laissez donc pas troubler, chers séminaristes, par le cauchemar de 2 ou 3 vieux abbés ou chanoines. Ils sont en retard de 3/4 de siècle, et parfois ils radotent comme des bonnes mamans. Vous avez le pape avec vous, cela suffit. » C'est très bien, ce prêtre. Quand on connaît le père de Hon, on ne peut que l'aimer. Il faut sortir de la sacristie, disait-il, pour aller au peuple. Il faut accepter la démocratie, parce qu'il y avait beaucoup de royalistes dans ce temps-là. Il faut songer à une organisation chrétienne et catholique de la démocratie. Elle doit être un parti ouvrier, non pas un parti d'ouvriers, comme l'a fait le socialisme, en opposant ouvriers et patronat, en séparant les classes sociales par la haine. Il ne s'agit pas de créer la haine, évidemment. Alors, la démocratie chrétienne, dans laquelle se rangeait le père de Hon, est une organisation pour le peuple et par le peuple, disait-il. Au congrès ouvrier de Reims, en 1884 et 96, il écoute avec beaucoup de satisfaction un serrurier et un mécanicien qui exposent leur point de vue. Puis il se raffermit dans la conviction que l'éducation du peuple par le peuple, ben ce n'est pas une utopie. On a eu ici des prêtres merveilleux, des évêques comme Mgr Charbonneau et quantité d'autres, hein, qui ont réfléchi et pensé à ça ici au Québec. Et que de textes nos évêques ont écrits aussi dans le même sens. De très beaux textes, les évêques du Québec. Hein. Il faudrait qu'on lise ça, il faudrait qu'on fasse des émissions là-dessus. Mais qui connaît ça aujourd'hui? Qui est au courant de ça, de ce que nos évêques ont fait, de ce que notre Église a fait pour reconnaître les droits de nos ouvriers, hein, tous les syndicats chrétiens que nous avons eus ici au Québec? Et dans son action sociale, le père de Hon n'a jamais assommé ses adversaires par des discours violents, mais il ne craint aucune confrontation pour défendre son point de vue, puis la cause des pauvres. C'est un apôtre des encycliques du pape. Il est pour l'union, il est pour la charité. Il garde l'amitié même avec ses adversaires politiques, comme René de la Tour Dupin, qui était un royaliste. Il restera toujours fidèle à cette ligne de conduite, et même, il va lutter, selon le désir du pape, pour le ralliement des catholiques de France à la République française. Et il va conseiller d'abandonner leur visée royaliste. Quand on connaît un peu l'histoire de la République, L'activité anti-religieuse des gouvernements radicaux français de la République autour des années 1880-1905, quand ils ont chassé les congrégations religieuses, ont pu mesurer le courage et la clairvoyance du père Dehon, qui a voulu transformer la République pour la rendre plus chrétienne et respectueuse des ordres et des congrégations religieuses. L'œuvre, c'est ainsi que le père Dehon appelle la congrégation qu'il veut fonder. Non pas la sienne, mais celle de Dieu, dit-il. C'est celle du cœur de Jésus. Et attiré par la vie religieuse dans une congrégation, l'abbé de Hon n'a pas trouvé ce qui correspondait à son idéal. Son idéal, la dévotion au cœur de Jésus dans un esprit d'amour et de réparation, si vous voulez, de consolation de ce cœur souffrant de Jésus. Car Jésus souffre. Il souffre de notre méchanceté, de notre manque de reconnaissance, de notre manque de tendresse pour les pauvres, pour ceux dans lesquels il est présent. Tout ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. Il l'a dit. Et au contact de certaines communautés de religieuses, entre autres les servantes du cœur de Jésus, il fonde sa propre congrégation religieuse, donc le 28 juin 1878 à 35 ans, par l'émission de ses premiers vœux de religion, c'est-à-dire de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Un collège, l'Institut Saint-Jean, est fondé en 77, et aussi la Maison du Sacré-Cœur à Saint-Quentin, qui sera la maison mère de la congrégation des prêtres du Sacré-Cœur de Jésus de Saint-Quentin. Les débuts sont pénibles. En 1878, le père Dehon est atteint de phtisie. Il est condamné par les médecins qui lui accordent moins de 6 mois à vivre. Sa congrégation sera même supprimée momentanément par Rome. Du 8 décembre 83 au 28 mars 1884. Puis de nouveaux confrères s'affilient à la nouvelle congrégation et plusieurs avaient ce qu'il fallait pour être des saints. Et les premières nouvelles fondations apparaissent, des écoles, des maisons paroissiales et des récollections, des noviciats, des scolasticas comme à Lille, et les premiers missionnaires partent pour l'Équateur de 1888 à 96. Et ensuite, ils partent vers l'Afrique centrale, c'était très dangereux à l'époque, les maladies et tout, en 97. Ils vont à Stanleyville, qui s'appelle aujourd'hui Kisangani. Puis le climat meurtrier, évidemment, fait mourir 7 des 11 premiers missionnaires venus avant 1901. Si aujourd'hui l'Église est implantée à Kisangani, c'est aux efforts de ses premiers missionnaires et de leurs successeurs qu'elle le doit, ces prêtres admirables du Sacré-Cœur. Le Brésil du Nord reçoit ses premiers prêtres du Sacré-Cœur en 93, et le Sud du Brésil en 1903. Aujourd'hui, leur nombre dépasse les 400. Le Canada attire certains vers 1900, au Québec ici. Le Cameroun, 912. Les États-Unis d'Amérique en 1923. De même, l'Afrique du Sud et l'Indonésie. Mais en Europe aussi, les écoles et les maisons religieuses se multiplient. Je vous fais grâce de la liste, qui serait fastidieuse. Et en France, pendant, les choses se gâtent. Depuis la loi Ferry, contraire aux congrégations religieuses, en 1879, qui interdit l'enseignement aux congrégations non autorisées, disait-on. Puis la loi de 1880 qui prononce la dissolution des congrégations religieuses. Les gouvernements radicaux de la République française avaient lancé leur offensive contre l'Église. Vous connaissez le nom de Waldeck-Rousseau, qui a fait voter en 1901 des lois contre les associations religieuses, puis la séparation entre l'Église et l'État, qui va être opérée en 1906, hein? Puis ce monsieur Combes, cet effroyable monsieur Combes, qui a dirigé de 1902 à 1905, qui a mis en application les lois antireligieuses, il a fait expulser les pères de la congrégation du père Dehon de leur maison de Saint-Quentin en 1903. Il a même confisqué leurs biens. La maison mère a dû être transférée de l'autre côté de la frontière belge, à Bruxelles. Et puis, les multiples requêtes, les protestations élevées par le père Dehon au ministre compétent de France n'avaient servi à rien. Et comble de comédie, malgré plusieurs enchères publiques, la maison du Sacré-Cœur n'a trouvé aucun acheteur à Saint-Quentin, c'est assez extraordinaire, excepté qui? Le père Dehon lui-même, qui a dû racheter au liquidateur son propre bien. Et il disait en souriant, c'est du Molière. Il en avait joué du Molière dans son enfance, au collège. La guerre de 1914-1918 va trouver le père Dehon à Saint-Quentin, où il reste jusqu'à l'évacuation de la ville ordonnée par les Allemands en 1917. Évacuation de la ville, c'est épouvantable. Il a alors 74 ans, les dernières années de sa vie. Celui qu'on appelait le très bon père, parce qu'il faut dire qu'il était très bon. C'est comme ça qu'on l'appelait familièrement. Eh bien, les dernières années de sa vie, le père Dehon les passe dans la communauté de Bruxelles. À cause de son âge et de sa santé, il doit renoncer à tous les déplacements d'autrefois. En été 1925, il est atteint par une épidémie de gastro-entérite et le mercredi 4 août, il se traîne péniblement à la chapelle. Puis après la messe de 7 heures, on doit l'aider à regagner sa chambre. Il reçoit le sacrement des malades le 11 août 1925, toujours, des mains du père Joseph Philippe, son assistant général et successeur au poste de supérieur général de la congrégation et qui est le futur évêque du Luxembourg. Le lendemain, il a des crises cardiaques violentes et l'agonie commence à midi. Alors il désigne une statue du Sacré-Cœur en face de lui. Et il dit d'une voix forte, « Pour lui, je vis, et pour lui, je meurs. » Puis il se raidit, et son cœur cesse de battre. Après le service funèbre à Bruxelles, le corps du merveilleux père Dehon est transféré à Saint-Quentin, en France, et déposé dans le caveau de la congrégation. Actuellement, il repose dans un sarcophage en marbre noir, très sobre, dans l'église Saint-Martin. Oui, cœur de Jésus, très digne de toute louange, roi et centre de tous les cœurs, en qui se trouvent tous les trésors de la sagesse et de la science, et en qui réside toute la plénitude de la divinité. Ayez pitié de nous. Nous sommes donc rendus à la décès au mort, à la mort du père Dehon, qui a cherché au début à entrer dans une congrégation religieuse, mais les congrégations existantes ne correspondaient pas à son idéal spirituel, à l'appel que Dieu faisait mûrir en lui. Et c'est bien sûr le cœur de Jésus qui était son étoile. Mais avec cette grâce particulière qui donnait le caractère spécifique à sa vocation, c'était pas de la mièvrerie. La spiritualité du cœur du Christ, c'est quoi? C'est l'adoration de l'amour infini de Dieu. C'est symbolisé par un cœur humain dans la personne de Jésus. Et aussi, la première source de cette belle spiritualité, c'est sa révélation par l'Écriture sainte, principalement le Nouveau Testament. C'est là que se manifeste l'amour de Dieu pour les hommes. Quand on lit les évangiles, on est bouleversé. Et correspondre à cet amour, c'est tout naturel pour un chrétien convaincu. Et rendre à Dieu cet amour que lui-même manifeste aux hommes, c'est naturel. Ça veut dire propager le règne du cœur de Jésus dans la société, dans les âmes. Durant toute sa vie, le père Dehon s'est attaché à cette réalisation, non seulement par une profonde piété personnelle, mais en y incluant également tout le monde entier. Il l'a fait par toute sa vie, par son apostolat, par son action sociale en faveur des pauvres, par ses écrits, par son enseignement, par ses prédications. Il n'a jamais démordu. Il l'a fait par toute sa vie religieuse, puis par sa congrégation, à laquelle il a insufflé son esprit, puis sa pensée et sa spiritualité du cœur de Jésus, qu'il a résumé ainsi. Il n'y a qu'une pratique qui est d'aimer en tout temps, en tout lieu, en toute situation. Je répète, il n'y a qu'une pratique qui est d'aimer en tout temps, en tout lieu, en toute situation. Pensez à ça au début des préfaces. On dit toujours qu'il est digne et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, partout, partout, partout. Mais la note particulière de l'amour de Dieu que le père Dehon cherchait ailleurs sans la trouver, et qui est la grâce spéciale de sa vocation, c'est l'esprit de réparation, je dis de consolation. J'aime pas tellement réparation, j'aime mieux consolation. De tendresse à l'égard du cœur souffrant de Jésus. Non seulement il aime Dieu parce que Dieu nous aime à la folie, mais il aime Dieu parce que l'amour n'est pas aimé. L'amour n'est pas aimé. Oui, l'amour de Dieu n'est pas aimé. Il essaie en quelque sorte d'aimer pour ceux qui ne répondent pas à l'amour de Dieu. Car tout, tout dans la vie d'un être humain peut contribuer à cet esprit d'oblation et de réparation. La prière, la santé comme la maladie, le travail professionnel, l'action apostolique et l'activité missionnaire et sociale, les succès, les joies, les revers, les peines, les persécutions, l'admiration, les remerciements, la conscience de l'ingratitude des hommes vis-à-vis de celui qui s'est fait homme et a donné sa vie pour eux sur la croix. Ça manifeste. Jusqu'où va l'amour miséricordieux de notre Père, le Père de Jésus, auquel il est si intimement uni qu'il ne forme qu'un seul Dieu. S'associer au Seigneur Jésus, c'est s'associer à Dieu notre Père dans l'unité de l'Esprit Saint. S'associer au Seigneur Jésus dans cette œuvre de salut, être soi-même l'humble bénéficiaire et collaborateur de cette nouvelle création dans la vie de tous les jours. Dire comme le Père de Honte qu'il faut être prêt à tout sacrifier pour cet amour. Voilà ce que nous enseigne ce Père extraordinaire, ce prêtre au cœur de feu. C'est pas du dolorisme, c'est pas du masochisme, c'est une marche résolue, en avant, comme il dit, sur le chemin à la suite du Maître qui l'a rendu praticable, ce chemin. Comment s'aventurer dans ce chemin sans avoir son cœur greffé au cœur de Jésus? C'est impossible. Me voici, Seigneur, pour faire ta volonté. Ce texte de la Bible résume l'abandon total de Jésus à Dieu son Père. Il résume également l'esprit d'amour et de réparation que le Père de Hon a voulu communiquer à sa congrégation, les prêtres du Sacré-Cœur, à l'Église, à la société, puis à toute l'humanité. En 1925, à la mort du Père de Hon, il y avait près de 700 religieux, exactement 696. Il y avait plus de 350 prêtres, près de 175 scolastiques, près de 175 frères. Il y avait 76 novices répartis en 4 provinces, franco-belge, Allemagne, Hollande et Italie, en 1925. Le développement de la congrégation était ensuite rapide, toujours croissant jusqu'en 67, avec un maximum de plus de 3000 religieux, mais avec la crise, eh bien, ils ont souffert. Et la situation actuelle, bien, on peut dire qu'elle est à peu près la suivante, 2300 religieux environ, 12 évêques, 1700 prêtres, 30 diacres, plus de 200 frères, 300 scolastiques. On peut ajouter 120 novices dans les pays autres que le Québec, évidemment. Ici, il n'arrive pas à avoir de novices. Quelle tristesse! Qu'attendez-vous, les jeunes? Depuis 1968, la décroissance était progressive, rapide. Dans les premières années, c'est plus lent maintenant. La congrégation diminue lentement. C'est rien d'étonnant. Ils sont mieux que d'autres congrégations d'ailleurs. Ils sont dans 30 nations. Il y a quelques années, ils ont commencé l'expérimentation d'une présence temporaire de confrères polonais en Russie, avec l'espoir d'y voir des champs d'apostolat plus fixes, confiés aux prêtres du Sacré-Cœur. L'ensemble de la personnalité du Père de Hon, par-dessus tout, c'est l'amour pour le Christ. Et c'est ça que veulent faire ces prêtres qui vont de l'avant. L'amour pour le Christ Jésus, une amitié ardente et sans mélange, comme il disait. Le cœur de Jésus, c'est tout l'Évangile, c'est ce qu'il disait. Impossible pour le Père de Hon de trouver dans l'Évangile un sentimentalisme doucereux et insignifiant, parce que mièvre et démobilisant, c'est pas ça du tout. Il dénonce fermement, d'ailleurs, le père Dehon, la fausse piété, la pusillanimité de quiconque change le Christ puis en fait une petite brebis timide. Le Christ n'est pas un homme craintif et faible qui ne parle qu'aux petits-enfants puis aux bonnes femmes. C'est une illusion, dit-il, qui coûte à l'Église son inertie, sa tragique absence dans l'aspiration des opprimés. Être la bête noire des hommes libres et des pauvres, avec un programme comme celui de l'Évangile, convenez qu'il y a de quoi faire rigoler, dira Bernanos. Bien oui, il y a de quoi faire rigoler, mais le père de Hon, lui, en est blessé à vif et il souffre. Il a souffert encore de ce que la bonne nouvelle ne soit pas vraiment annoncée à tous. Le Christ ne donne pas seulement la charité aux pauvres, a mis aussi la justice, l'estime, l'honneur. Il défend tout, même chez les plus riches. Il est fou d'amour pour notre Seigneur, parce que l'amour n'est pas aimé.